On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode.
Hello à toutes, hello à tous. Très très heureux de vous accueillir aujourd'hui et surtout d'accueillir un nouvel invité qui vient de me rejoindre, Christophe Ricevuto, qui est CEO de Nalios, qui va nous dire un petit peu plus justement sur son actualité et sur son activité également. On va retracer un petit peu avec Christophe notamment son parcours entrepreneurial, toujours sur la forme des premières fois, donc on va en aborder 5 au total ensemble. Christophe, bonjour et surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse nous dire qui tu es et présenter un petit peu ton activité.
Salut Alexandre et merci beaucoup pour l'invitation à ton podcast en tout cas. Donc effectivement Christophe, le CEO de Nalios. Donc pour la petite histoire, on a cofondé Nalios avec mon associé Ben en octobre 2020. Donc ça fait un tout petit peu plus de 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, on est une entreprise qui intègre principalement des logiciels de gestion pour les entreprises et principalement les PME. Et on est 25 personnes réparties sur 3 pays, enfin 3 régions plutôt différentes. Donc la Flandre, la Wallonie en Belgique et en Suisse.
Ok, super. Merci pour cette présentation. Donc une 20aine de collaborateurs déjà au bout de 3 ans, ça veut dire que ça se développe plutôt bien, qu'il y a une jolie croissance. Et surtout, par rapport à ce que tu viens de décrire sur votre activité, vous répondez concrètement à un besoin justement par rapport à une demande au niveau des clients.
Effectivement, hein, c'est vrai que c'est une entreprise et en tout cas un secteur d'activité en pleine expansion puisque la digitalisation est vraiment au cœur des débats, surtout depuis le Covid finalement. Et donc, on peut dire qu'on est arrivé au bon moment et que l'entreprise a pu bénéficier aussi finalement de cet environnement.
Ok, super. Quand on monte une entreprise, qu'est-ce qu'on fait en général ? On n'a pas forcément de maîtrise sur tous les postes, tous les sujets. On doit les apprendre au fur et à mesure. Et on va créer et préparer du coup un business plan. Et là, on va parler du coup avec toi, ton premier business plan. Donc la première fois que tu es en train de mettre en place ce business plan. Mais ça ne va pas forcément aller dans le sens que vous avez justement envisager en termes de projection, mais plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez été un peu à côté de la plaque, entre guillemets, dans le sens où les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que vous vouliez. Si, au contraire, ça a été au-delà de vos espérances. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que quand c'est la première fois qu'on crée une entreprise, on n'est pas vraiment, en tout cas, on n'a pas vraiment d'idée de comment va se passer le premier business et comment ça va fonctionner. Et donc, on avait une idée très très réaliste finalement, ou en tout cas qu'on pensait réaliste de notre activité, où on avait pour idée d'engager une première personne au bout d'un an et demi, de ne pas se payer pendant un an. Et puis finalement, en démarrant l'activité, on s'est rendu compte que très très vite, on a eu beaucoup beaucoup d'engouement. Et donc, on s'est retrouvé à engager une première personne au bout de 3 mois et à pouvoir se payer après ces 3 premiers mois, ce qui était vraiment inespéré à ce stade-là et pour lequel on était effectivement très content.
Génial. Donc, au bout de 3 mois déjà de lancement d'activité, avec ton associé, on va y revenir tout à l'heure, ça vient justement dans une autre de tes premières fois, vous arrivez déjà à rémunérer quelqu'un, donc on sait que c'est pas forcément des informations qu'on prend en compte au démarrage quand on veut recruter quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on va payer 2000 euros, au final ça va nous coûter 4000 euros, donc vous avez cette capacité en tout cas de le faire et surtout de vous payer au bout de 3 mois. Moi je trouve ça assez exceptionnel. Est-ce que tu aurais des tips ou en tout cas des secrets de cette réussite au bout de 3 mois d'avoir justement pu recruter quelqu'un et vous rémunérer directement avec ton associé?
Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance, en tout cas, comme je le disais précédemment, d'être dans un secteur en plein boom. Et donc, ça a permis aussi de pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue l'entreprise. Je dirais que si vous n'avez pas encore forcément d'idée, en tout cas, de vers où vous voulez vous lancer, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est en tout cas de plutôt regarder les secteurs d'activité qui sont en pleine expansion aujourd'hui. Ça faciliterait évidemment grandement les choses pour vous.
Complètement. Donc, vous avez identifié tout de suite un secteur qui était en vrai, vrai, vrai boom et en plein potentiel. Et derrière, vous avez tout de suite posé en tout cas votre pierre à l'édifice et c'est venu tout de suite. Mais du coup, justement, vous démarrez, vous n'avez pas forcément de clients, vous n'avez pas forcément notamment de notoriété entre guillemets. Est-ce que justement, comme c'est en plein boom, les gens viennent facilement à vous ou vous avez quand même eu des approches, du marketing, des stratégies justement commerciales pour aller chercher et identifier ses premiers clients ?
Non, au début, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Tant qu'on n'a pas de bouche à oreille, en tout cas, il faut prospecter, il faut en tout cas entreprendre des démarches pour essayer de trouver des clients. Et donc là, on a eu recours à des techniques plutôt classiques qu'on rencontre un peu partout aujourd'hui, donc c'est-à-dire des campagnes d'emailing, du networking, des campagnes de prospection téléphonique parfois aussi. Donc les débuts sont toujours un peu délicats, même si ça a été vite finalement dans notre cas. Mais tant que la partie bouche à oreille n'est pas complètement activée, c'est vrai qu'il faut entreprendre beaucoup de démarches pour trouver ses premiers clients.
Ok, merci pour tes réponses. On va du coup aborder cette deuxième première fois où tu parlais de ton associé. Donc, c'est la première fois que tu te lançais du coup avec un associé. Comment ça s'est passé ?
Oui, donc c'était effectivement la première fois tout court que je me lançais dans l'entrepreneuriat et je m'étais toujours dit, tiens, j'ai toujours envie d'être entrepreneur. Par contre, j'ai toujours eu cette petite rétention, en tout cas, ou cette petite appréhension de me lancer seul. Parce que c'est vrai que quand on se lance seul, on a tendance à avoir toutes les responsabilités sur soi. Alors, c'est vrai qu'on a finalement 100% de sa boîte, c'est sûr. Mais par contre, on endosse toutes les responsabilités. On peut pas vraiment se reposer sur quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, c'est vrai que ça a facilité grandement les choses de bien m'entendre avec Ben, mon associé, qui était d'abord avant tout un ami au départ et qui maintenant, on est évidemment associé dans cette entreprise et ça a grandement aidé de pouvoir compter sur lui dans les succès, mais aussi dans les difficultés.
Effectivement. Donc, c'est toujours bien aussi d'être accompagné, d'être avec quelqu'un de confiance. Donc, tu as dit ton associé, c'est quelqu'un qui était ton ami de départ. Est-ce que tu avais cette crainte au départ justement de potentiellement froisser cette amitié si ça se passait mal? Est-ce que tu avais de la retenue par rapport à ça ou au contraire, pour toi, c'était une évidence?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très controversé parce qu'on va souvent entendre, oui, c'est bien de... Enfin, d'un côté, c'est bien de faire du business avec ses amis. De l'autre, on va dire, oui, mais effectivement, si on fait du business avec ses amis et que ça se passe mal, c'est problématique parce qu'on perd à la fois un associé, mais aussi un ami. Moi, je me suis jamais vraiment posé ces questions-là parce que pour moi, ça coulait de source dans le sens où on était très complémentaires. Et quelle autre personne qu'un ami ou un membre de la famille, en tout cas c'est mon opinion, à qui peut-on faire confiance plus que ça finalement? Et je dirais que le succès de notre association finalement aujourd'hui, c'est vraiment la communication. Donc on communique beaucoup et ça nous arrive effectivement d'avoir des fois des désaccords, mais en communiquant bien et en discutant des attentes de chacun, on finit par trouver des solutions.
Ok, et une personne qui se pose des questions aujourd'hui, qui se demande si c'est intéressant de s'associer ou non, que ce soit avec un proche, une famille, un ami ou peut-être même quelqu'un qu'elle connaît un peu moins, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui pour justement lui lever un petit peu ses doutes?
Je pense que l'idée de pouvoir s'associer avec quelqu'un, c'est avant tout, il y a plusieurs raisons évidemment, mais une des premières raisons, ce serait de trouver quelqu'un avec un profil complémentaire au sien. Moi, j'aime beaucoup en tout cas m'associer avec des gens que je connais déjà, parce que ça me permet d'avoir déjà une relation de confiance avant de s'engager dans une aventure entrepreneuriale. Et donc, c'est les deux premiers conseils que je donnerai en tout cas. C'est un, essayer de trouver quelqu'un qui est complémentaire à vous. Et deux, essayer de trouver quelqu'un en qui vous avez déjà confiance si possible.
Des super conseils. Ok, on arrive à cette troisième première fois où tu vas nous parler de ton premier bureau à l'étranger. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous agrandir, il y a une croissance et vous décidez du coup de vous exporter un petit peu à l'étranger. Dis-nous en plus.
Effectivement. Donc, aujourd'hui, on a des grandes ambitions, c'est-à-dire qu'on veut également s'implanter en France, dans plusieurs régions de France. Mais ça n'a pas démarré comme ça. Au départ, on avait l'idée de construire notre premier bureau ici en Belgique. Et on n'avait pas forcément d'ambition au départ de vouloir s'agrandir à l'étranger. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on a un ami à nous qui est parti en Suisse il y a quelques années d'ici et qui a décidé de travailler dans le même secteur d'activité que nous. Et puis, au bout d'un moment, il a vu notre expansion en Belgique et il s'est dit « Mais pourquoi est-ce que je ne m'associerais pas avec Nalios pour justement créer une antenne en Suisse ?» et démarrer cette aventure entrepreneuriale finalement de son côté avec notre appui en Suisse. Et c'est comme ça que ça s'est passé finalement. Donc on a pas mal discuté et on est tombé à un accord ensemble effectivement. Et là, ça fait un an et demi maintenant qu'il a lancé le bureau en Suisse et il compte aujourd'hui 3 personnes en cours de recrutement pour une 4e personne.
Super, donc il y a eu ce premier bureau, cette première idée un petit peu d'aller à l'étranger. Donc pour l'instant, c'est en cours, comme tu dis, de recrutement. Il y a d'autres collaborateurs qui vont venir et on peut imaginer que ce sera un peu le même succès que votre siège social actuellement.
C'est ce qu'on espère en tout cas.
Ok, bon, vous le souhaitez. J'espère que les auditeurs apprécient beaucoup justement votre parcours à tous les deux, avec votre associé, parce que encore une fois, voilà, il y a au bout de 3 mois, vous arrivez à recruter, vous arrivez à vous verser un salaire. Ce n'est pas forcément le cas tout de suite quand on démarre, surtout quand on est associé, mais il y a une belle success story derrière. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre les qualités, les points, on va dire, importants pour justement permettre à ce succès. Donc, merci en tout cas déjà pour tes réponses. On aborde du coup cette quatrième première fois. Donc là, on ne va pas être sur un registre sympathique comme les 3 premiers. On va plutôt parler du coup de ton premier licenciement. Se séparer de quelqu'un, on sait que ce n'est pas toujours évident, surtout que quand on recrute quelqu'un, c'est plutôt un nouveau soldat, un nouveau Jedi qui est avec nous. On veut faire en sorte qu'il soit un petit peu dans la même dimension que nous et qu'il ait la même vision que nous au niveau stratégique. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu émotionnellement comment tu as justement géré ce premier licenciement?
Oui, en effet. Hein, donc, tu l'as très bien dit. Ce qui est problématique, en tout cas, c'est quand on recrute, en tout cas, on veut recruter des gens avec qui on s'entend extrêmement bien et qui ont les mêmes valeurs que nous, qui partagent les mêmes envies que nous finalement. Et donc, on met beaucoup, beaucoup d'énergie dans le recrutement et on peut évidemment parfois se tromper quand on recrute quelqu'un. Et donc, on a été confronté finalement à un premier licenciement dans lequel finalement la personne, au bout d'un certain temps, ne se retrouvait plus dans nos valeurs et plus dans la manière dont on avait de travailler, d'apporter de la valeur à nos clients. Et ce qui a été le plus difficile, je dirais, dans ce cas-ci, c'est surtout de pouvoir l'annoncer à l'équipe, puisqu'on avait déjà une équipe de 7-8 personnes en place à l'époque. Et donc, on était comme une petite famille. Et c'est vrai que lorsqu'on décide de se séparer de quelqu'un alors qu'on forme une petite famille comme ça, c'est très, très difficile de devoir l'annoncer aux autres et il faut bien, bien communiquer. Donc, ça a été émotionnellement assez dur à ce niveau-là. Et c'est ce que, enfin, finalement, on a réussi à passer outre ça en communiquant bien et en expliquant le pourquoi du comment. C'est vrai que ça a soulevé beaucoup de questions en interne, hein, du coup, puisqu'on est une petite boîte qui se développe. Les gens se disent, mais tiens, est-ce que c'est le premier d'une longue liste? Est-ce que l'entreprise va bien? Il y a toutes ces questions qui se posent. Et notre rôle dans ce cas-là, c'est vraiment de rassurer. Et je dirais que c'est ce qui a été le plus dur, en effet.
D'où l'importance, comme tu dis, de bien communiquer parce que ça peut être interprété forcément de manière négative. Vous êtes en phase de recrutement, en phase de croissance, donc on voit des gens arriver et on ne s'attend pas forcément à ce que des gens partent, à ce que des gens justement démissionnent ou là, dans le cas justement qu'on évoque, c'est vraiment un licenciement, donc partent contre, on va dire, l'avis entre guillemets de l'entreprise. Mais il faut bien comprendre et intégrer que ça fait partie en tout cas de la vie d'une entreprise au quotidien. On ne gère pas que des choses faciles, évidentes tous les jours. Et moi, je le dis toujours, le rôle d'un entrepreneur, c'est de gérer justement des problèmes au quotidien, et vous l'avez fait justement assez bien par rapport à ça, je trouve, par rapport à tes explications. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un manquement de votre côté? Vous n'avez pas su détecter des signaux pour se rendre compte que cette personne n'était pas en phase avec la société? Quels auraient été les axes d'amélioration, sur toi, pour éviter justement que ça puisse arriver?
Ce que je pense, en tout cas, c'est que quand on est entrepreneur, on doit faire en sorte de se dire que la faute vient toujours de nous. C'est super important parce que ça nous permet, même si c'est pas forcément toujours le cas, dans la grande majorité c'est le cas puisque c'est finalement nous qui prenons les décisions et donc ça nous appartient de prendre les meilleures décisions. Après, pour parler vraiment du recrutement en lui-même, je pense que le mieux c'est de faire tout ce qu'on peut pour essayer de trouver les gens qui nous correspondent. Mais malheureusement, il y a ce côté humain qui est tout à fait normal et tout à fait inhérent au fait de recruter quelqu'un. C'est que on se rend compte que sur quelques interviews, le temps qu'on passe ensemble, etc., ça se passe bien. Et puis au fur et à mesure des mois, ça finit par moins bien se passer. Donc, ce que j'ai tendance à penser à ce niveau-là, c'est qu'il faut faire confiance à ses tripes, hein, finalement, quand on recrute quelqu'un, parce que c'est surtout une notion humaine et une question d'instinct, selon moi. Et puis, ne pas avoir peur de se séparer des personnes quand on voit finalement que ça ne fonctionne pas et le plus rapidement possible. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on a quelqu'un en interne qui ne correspond pas aux valeurs des autres, ça peut vite finalement contaminer toute une équipe. Quand je dis contaminer, je veux dire, c'est pas forcément que la personne n'est pas bonne, c'est simplement qu'elle ne correspond pas à la vision qu'on a de l'entreprise. Et donc, il faut essayer d'éviter au maximum que cette vision, ces valeurs, en tout cas, soient dispersées un peu partout parce qu'on a des gens qui ont garde trop longtemps ou plus longtemps que nécessaire.
Et c'est très important ce que tu dis justement de savoir prendre des décisions, de couper les branches justement qui ne correspondent plus à l'entreprise. Alors j'apporte une précision, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les branches sont pourries et en l'occurrence que le salarié ne l'est plus, mais il y a des collaborateurs parfois qui ne s'investissent plus. Alors parfois ça vient aussi, ça émane de la part de la direction, ça vient justement des décisions qui sont prises, mais un patron justement, ou là en l'occurrence deux associés que vous êtes, doivent prendre des décisions pour faire en sorte d'assurer que le bateau soit toujours à flot avec l'équipe, parce qu'on ne peut pas justement aller que dans le sens d'une seule personne, c'est toujours le collectif qui prime en règle générale.
C'est tout à fait ça.
Yes, merci pour ça encore, pour tes réponses. On va parler du coup de la première fois où vous avez créé un emploi pour un salarié qui était déjà en place. Alors ça paraît bizarre ce que je suis en train de dire, du coup on va l'appeler cette première fois la première adaptation que vous avez eue avec un salarié. Si je comprends bien, c'était quelqu'un qui voulait partir, mais vous avez pu et dû et créer un poste en tout cas avec cette personne-là, pour qu'il puisse notamment rester, s'épanouir et aussi vous apporter de la valeur.
C'est ça, donc cette anecdote est assez marrante parce que c'est la première fois qu'on a été confronté à cette situation-là et c'est vrai qu'on a un collègue, hein, je vais le nommer John, donc qui est chez nous depuis maintenant presque deux ans et demi, et qui travaillait comme consultant chez nous pendant pas mal de temps. Et un jour après ses vacances, il est venu me voir en me disant « Écoute, Chris, j'ai vraiment envie de quitter Nalios et de faire autre chose. » Et au bout d'un moment, donc en discutant, etc., pendant son préavis, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment une conscience professionnelle très forte et qui a tenu à nous aider jusqu'au bout, en discutant avec lui pendant son préavis, je me suis rendu compte que ce qu'il cherchait, c'était avant tout de pouvoir avoir une fonction un peu plus commerciale et pas forcément de consultance. Et on n'avait pas à l'époque d'envie ou en tout cas de besoin de créer un poste de commercial à ce moment-là. Mais John est quelqu'un qui est extrêmement bon dans son métier et qui comptait énormément pour nous, à la fois en tant que personne, mais aussi en tant que collaborateur. Et donc, on s'est dit, mais en fait, pourquoi ne pas sauter sur l'opportunité finalement de créer ce job de commercial pour lui, pour justement pouvoir l'aider à s'épanouir et pouvoir aussi le garder dans l'entreprise, qui est quand même un élément qui est important. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça en juillet, exactement. Donc, c'est maintenant son quatrième mois dans lequel il exerce cette fonction-là. Et je dois dire que ça se passe extrêmement bien. Donc, le move est plutôt payant à ce niveau-là, dans le sens où il est extrêmement content d'avoir pu rester. Mais aussi, au niveau de l'aspect commercial, en tout cas, de notre entreprise, ça fonctionne extrêmement bien. Et alors, il y a une troisième chose qui est très importante dans cette situation-là, c'est que ça permet aussi aux autres collègues de se rendre compte que malgré le fait qu'on n'a parfois pas envie de rester dans un job, il y a des opportunités qui peuvent se créer, même si elles n'existent pas encore. Il faut absolument parler en interne du fait de savoir ou pas si le job vous convient, parce que en discutant avec son boss ou en discutant avec un collègue, on peut se rendre compte que parfois on crée des opportunités rien qu'en en discutant comme ça. Donc ne démissionnez pas, si j'ai un conseil à donner en tout cas, si vous êtes un collaborateur et qui est dans une boîte, ne démissionnez pas forcément, discutez-en d'abord et ensuite voyez si vous pouvez trouver une solution.
Ce que j'aime beaucoup dans cette anecdote, dans cette belle histoire, c'est, je retiens un mot en tout cas, c'est le mot opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un collaborateur qui veut partir, vous appréciez cette personne-là et vous n'êtes pas justement cantonné à ses fonctions, à ses tâches où vous allez dire on va remplacer du coup cette personne et puis on continue de faire tourner la boutique. Non, c'était un poste qui était un peu en réflexion, mais là du coup il y a eu cette opportunité de transformer ce poste, de garder en plus votre collaborateur que vous appréciez. Donc ça c'est vraiment une force. Comme tu dis, il faut qu'on en discute. Si demain on veut démissionner, bon, il faut vraiment aller voir la direction, dire quelles sont nos aspirations, c'est très important. Encore faut-il après que l'entreprise justement soit ouverte à tout ça, c'est assez rare en l'occurrence et je dois vraiment souligner ça avec vous parce que je vous tire mon chapeau, c'est-à-dire que quelqu'un veut partir, non, vous faites en sorte de rester une équipe, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu comme une petite famille, même si parfois on n'a pas à tout mélanger entre le côté vie pro, vie perso, mais c'est vraiment en tout cas l'image et l'ADN que vous voulez transmettre en tout cas avec votre entreprise, on appelle ça une culture d'entreprise concrètement et elle est très très belle par rapport à ça. Et c'est vraiment important parce que vous n'êtes pas uniquement dans la notion de recruter, du recrutement, c'est-à-dire avoir absolument un employé pour avoir un employé. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK, on discute avec eux, donc vous êtes quand même très ouvert pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus et ensuite trouver des opportunités avec eux.
Oui, ben en effet, on fait en sorte que quand on on recrute quelqu'un, finalement, on s'investit pleinement dans la relation. Hein. C'est pas qu'une relation unidirectionnelle dans laquelle l'employeur profite d'un employé. C'est pas du tout l'idée. Nous, l'idée, c'est qu'on veut baser notre culture d'entreprise sur l'humain. Donc, c'est extrêmement important. Donc, l'investissement, il se fait à la fois du côté de l'employé, mais aussi de notre côté. Extrêmement important pour nous, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve finalement et tout le monde s'entende bien et fasse le meilleur boulot possible.
Complètement d'accord. Quelles sont pour toi les qualités essentielles pour un entrepreneur qui démarre ?
Alors, je pense qu'un entrepreneur qui démarre, je pense qu'il y a une certaine tolérance au stress qui doit être nécessaire hein, dans ce cas-ci, puisque c'est vrai qu'on endosse beaucoup de responsabilités et finalement, on travaille un peu sans filet. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de se retourner sur quelqu'un quand on fait une erreur ou quand on se trompe, bien que le fait d'avoir un associé, effectivement, permet ce genre de choses, puisqu'on est finalement responsable, mais pas tout seul. Donc, ça permet d'aider. Ensuite, si je devais parler de mon parcours personnel, je pense que ce qui m'a pas mal aidé, c'est de prendre d'abord un peu d'expérience dans le milieu professionnel. Hein. Donc, j'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai quand même pas mal bossé avant, pas mal fait des choses. Je sais que certains entrepreneurs se lancent directement après leurs études ou même parfois sans études, ce qui est tout à fait raisonnable également. Mais de mon côté, en tout cas, j'avais besoin de cette expérience pour pouvoir avoir toutes les compétences et qualités requises afin de me lancer.
Ok, très intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais au Christophe d'il y a quelques années qui n'avait pas encore monté son entreprise, donc il y a un peu plus de 3 ans. Maintenant que tu sais un petit peu comment ça se passe, le côté... management, gestion justement de crise aussi, gestion de salariés, de collaborateurs, de trésorerie, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a comme connaissance au démarrage d'une activité. Qu'est-ce que tu lui conseillerais au Christophe justement d'il y a quelques années ?
Alors, ce que je conseillerais principalement, c'est de bien s'entourer. C'est une des premières choses. Bon, j'ai réussi à le faire directement en me lançant avec mon associé, mais aussi, on n'y pense pas souvent, mais bien s'entourer au niveau financier, par exemple, avoir un bon comptable, un bon expert comptable, c'est très important. Ne pas avoir peur de prendre des risques aussi. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on a déjà un peu d'expérience et qu'on travaille déjà, le fait de se lancer comme entrepreneur, ça a l'air d'être un énorme risque, mais quelque part, qu'est-ce qui vous empêche de revenir en arrière si votre activité ne fonctionne pas ? C'est toujours ce que je me suis dit quand j'ai démarré, et c'est ce que je me conseillerais en étant plus jeune de faire. C'est qu'en fait, si on a déjà des compétences et de l'expérience quelque part et qu'on décide de se lancer comme entrepreneur, il n'y a rien qui nous empêche derrière de pouvoir revenir en arrière si jamais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une des premières choses. Et ensuite, une autre chose que je ferais, c'est que je n'hésiterai pas, en tout cas, à me renseigner au maximum sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que durant les études, c'est pas forcément quelque chose qui est promu. Mais par contre, il y a pas mal de ressources aujourd'hui qui existent, notamment des bouquins, hein, notamment sur Internet, etc., des formations ou autres qui permettent d'avoir un peu plus le pied à l'étrier, notamment au niveau financier, gestion de trésorerie, en effet, puisque ça reste quand même le poumon d'une entreprise.
Complètement. Et comme tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux, en tout cas d'acquisition en termes d'informations pour se renseigner, savoir comment on gère une comptabilité. On ne dit pas qu'il faut être expert dans un domaine, mais en tout cas, avoir un minimum de connaissances pour notamment déléguer cette partie-là. On peut faire confiance après à des gens qui vont justement s'assurer de certaines tâches, mais en tout cas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est vraiment très important réellement de s'inspirer de tout ça. Puis quand on pense à l'entrepreneuriat il y a 30 ans, les informations, il fallait aller les chercher, alors que là, elles sont à disposition. Donc, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là quand on se pose des questions. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas, d'avoir joué le jeu, de t'être prêté au jeu des premières fois dans l'entrepreneuriat. C'était très instructif, en tout cas pour moi. Je pense aussi pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent également. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nalios, ta société, avec ton associé, justement, pour les années à venir ?
Eh bien, donc, ce que je peux en tout cas rêver, c'est de pouvoir continuer l'expansion en Europe et notamment en France, qui est un pays qui nous tient beaucoup à cœur. On a vraiment envie de pouvoir s'y implanter. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal. Et je voulais en tout cas te remercier aussi, Alexandre, pour cette invitation, parce que c'est extrêmement intéressant de pouvoir discuter avec toi au niveau des premières fois dans l'entrepreneuriat. Et donc, merci.
Avec plaisir. Moi aussi, très content d'avoir pu échanger avec toi. C'était un grand, grand, grand plaisir. Et peut-être que je te réinviterai pour le 1000e épisode. On verra justement comment ça se passe, nous aussi, avec le succès des premières fois dans l'entrepreneuriat pour le podcast. Encore merci Christophe. On se tient informé. On souhaite en tout cas longue vie à Nalios et j'espère vraiment que l'expansion pourra se faire en tout cas dans toute l'Europe. Donc encore merci à toi.
Merci Alexandre.
Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler encore une fois de 5 thématiques liées aux premières fois dans l'entrepreneuriat. Merci à tous. À bientôt. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.